Grainville PM. Politique.
On s'est fait avoir. Et aujourd'hui, c'est encore plus humiliant pour le Québec que les cadres de Bombardier nous aient fait des promesses qu'ils n'ont pas pu garantir, sauf pour eux-mêmes et leur rémunération. Alors, honte à Bombardier.
La vérité, c'est que le gouvernement de la CAQ, c'est pas un gouvernement de l'économie, c'est un gouvernement des actionnaires.
L'industrie de l'aérospatiale est solide, est en santé, et que votre gouvernement est là pour faciliter, aider et promouvoir de remplacer les emplois perdus, parce qu'on sait très bien que c'est une industrie qui est en santé, encore une fois.
Grainville PM.
Alors, c'est une voix à laquelle vous vous habituerez. Pierre Fitzgibbon, hein, le dernier à avoir parlé, nouveau ministre de l'Économie, juste avant Gabriel Nadeau-Dubois, qui disait que le gouvernement de la CAQ, c'était un gouvernement d'actionnaires, pas un gouvernement pour les travailleurs. Et juste avant, Pascal Bérubé, donc il disait que Bombardier nous avait trompés. Pascal Bérubé, chef intérimaire du PQ. Carl Bélanger, consultant en communication stratège politique. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Réaction d'abord à ces réactions et à l'annonce de Bombardier.
Moi, j'ai été un peu surpris d'entendre la critique virulente de Gabriel Nadeau-Dubois. Monsieur Fitzgibbon, il vient d'apprendre la nouvelle. C'est pas lui qui a négocié l'entente entre Québec et Bombardier, puis il n'y a aucune responsabilité de la Coalition Avenir Québec dans l'annonce qui a été faite aujourd'hui.
C'est un peu, on dirait...
Prématuré.
C'est juger le gouvernement actuel pour les actions.
Démagogique, peut-être, un petit peu.
Bon, oui, mais c'est juger le gouvernement actuel pour les actions du gouvernement passé et pour les actions de Bombardier. Donc, essayons quand même de répartir les responsabilités. Monsieur Fitzgibbon, ministre du Développement économique, est en train de terminer une conférence de presse. Lui, sa principale réaction, c'est de dire « Aujourd'hui, je pense aux travailleurs ». Et je pense à la suite des choses, il a refusé de faire le procès de l'entente signée par le gouvernement Couillard. Il a refusé de parler des bonus que s'étaient accordés, des très généreux bonus que s'étaient accordés la haute direction de Bombardier. Il a refusé aussi de commenter la décision comme telle. Il dit, lundi matin, je convoque une rencontre entre les joueurs de l'industrie puis les représentants du travailleur pour essayer de relocaliser les 2500 personnes au Québec qui ont perdu leur emploi. La consolation, c'est qu'on est dans une situation générale de pénurie de main-d'œuvre, que
ils vont
c'est une main-d'œuvre qualifiée.
Ils vont se retrouver
Se replacer.
Le problème, c'est que ça ne sera pas nécessairement le même salaire.
C'est ça. Combien ils vont être payés, puis quand ils vont la trouver? Vous dire à quelqu'un qu'il va se trouver une job,
familles,
c'est dans 8 mois. C'est dans 8 mois quand même. Ça peut être long, passer 8 mois sans emploi.
C'est pas évident, là. Puis surtout qu'ils l'apprennent via le communiqué de presse de la compagnie.
Oui.
Comme tout le monde.
Oui. Oui, puis j'ai posé la question à Olivier Marcille, le porte-parole de la compagnie, puis qui m'a dit, regardez, là, légalement, on est pris pour annoncer ces nouvelles-là à tout le monde en même temps, parce que c'est une information matérielle, entre guillemets. Là.
Qui a un impact sur les marchés.
Qui a un impact sur le marché, qui peut avoir un impact sur le cours de la bourse. Donc, il faut le faire une fois que les marchés sont fermés. Mais les marchés, tu sais, sont fermés à matin, mais ils étaient fermés aussi hier soir après 16h30. Là. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas pu l'annoncer aux travailleurs, trouver une façon de l'annoncer aux travailleurs hier soir? C'est sûr que ça aurait fini par couler, mais de l'annoncer aux travailleurs hier soir avant l'émission du communiqué de ce matin. À ce que je sache, l'action de Bombardier n'est pas transigée ailleurs. Une fois que c'est fermé en Amérique du Nord, il n'y a pas d'autres marchés qui transigent l'action de Bombardier. Peut-être sur les marchés secondaires. En tout cas, bref, il me semble que les travailleurs là-dedans ne sont pas traités avec le respect qu'ils méritent.
Tu veux toujours que les travailleurs soient les premiers à l'apprendre, peu importe le secteur, que pour les entreprises publiques ou privées.
Mais sur l'histoire des bonus, là, moi, vous dire, les amis, là, moi, je les trouve pas bons, Bombardier, dans la gestion de ce dossier-là, parce qu'ils passent le temps à nous donner le même argument de dire, il faut avoir une rémunération compétitive. Ouais, OK, compétitive, je veux bien, mais t'es dans une entreprise qui arrête pas de têter des fonds publics. Alors, à un moment donné, tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu vas travailler pour Bombardier. Tu sais que tu t'en vas dans une entreprise qui a été aidée massivement par les contribuables. Ben tu peux t'attendre à ce que ta rémunération soit, qu'elle soit pas dictée juste par le rendement de l'entreprise, mais qu'il y ait d'autres considérations qui entrent en jeu. comme le respect, par exemple, des travailleurs puis du bon contribuable. Mmh. Puis si tu leur imposes des sacrifices, ben impose-toi-en toi ici, tu sais.
Mais comme tu l'as dit, Bernard, ils sont habitués à têter les gouvernements. Mais les gouvernements ont une responsabilité là-dedans. Là. Ah ouais, t'as besoin de mon aide? Ben ton salaire, on va le couper de moitié. Le salaire de toute la gang autour de toi, on va le couper de moitié pour s'assurer qu'on ait des garanties. Parce que je veux bien croire qu'il faut être compétitif, là. Mais clairement, Bombardier, on est allé chercher du monde qui ne rentre pas la compagnie compétitive parce qu'ils coupent des jobs encore.
Écoute, ils sont soit, t'as dit qu'ils sont pas bons, ou on pourrait aussi se dire qu'ils sont très bons parce qu'ils ont réussi à avoir exactement ce qu'ils voulaient, la haute direction, à avoir de l'aide des gouvernements, encaissant le moton qu'ils ont réussi à faire. Puis ce qui est particulièrement...
Je parlais du message.
Je sais. On se comprend, Bernard, et on se complète.
Je sais que tu le sais.
Et ce qui est, je pense, particulièrement choquant pour les Québécois, c'est de voir que les gens qui ont bénéficié dans toute cette saga-là des dernières années, c'est les actionnaires de Bombardier qu'on est venu aider par la bande. Et aussi, il y a des gens dans la haute direction qui ont fait beaucoup d'argent, alors qu'on sait les difficultés de Bombardier. Elles viennent du fait qu'on a essayé de créer de nouvelles filières avec la C-Series, puis l'aventure, elle n'a pas très bien été sur le plan financier, parce que bon, on dit que sur le plan de la construction, c'est une réussite, cet avion. Et le Bombardier est en train de se recentrer, on le voit, ils ont besoin de liquidités. Et pour ça, ils réorientent leurs activités vers ce qui fonctionnait bien au départ, entre autres le transport, tout ça, puis on largue les divisions d'avions commerciaux, etc.
Donc,
c'est un mea culpa, on revient vers l'arrière, puis on vend des actifs pour trouver des liquidités, mais les gens qui sont derrière ces décisions-là, est-ce qu'ils ont été pénalisés ou non? Puis en terminant, juste revenir sur les propos de Québec solidaire, j'ai critiqué Gabriel Nadeau-Dubois, mais il faut rappeler par contre que des partis comme le Parti québécois, puis Québec solidaire, ils ont proposé des mesures, je ne sais pas si elles sont applicables, mais à tout le moins, ils ont le mérite de lancer une conversation là-dessus. Entre autres, si une entreprise est aidée par l'État, on veut plafonner le ratio du salaire que gagnent les hauts dirigeants par rapport à celui de leurs travailleurs, par exemple, du 30 pour 1, pour pas qu'il y ait un écart déraisonnable. Bref, je ne sais pas c'est quoi le mécanisme exact qu'il faut avoir, mais comme Carl le dit, ça prend des conditions minimales quand même.
Ah oui, c'est ça. Si t'es une compagnie qui demande rien aux contribuables puis tu veux te gouverner comme tu veux, garde, gouverne-toi comme tu veux. J'ai pas un mot à dire. C'est aux actionnaires après ça à décider si ta rémunération est juste ou pas. Mais ça s'adonne que dans ce cas-ci, c'est nous autres, les actionnaires, en partie, en tout cas, de cette compagnie-là, de multiples façons.
Puis pas actionnaire du bout qui est le plus rentable. Avec l'investissement qui a été fait, ça n'a pas été fait dans l'ensemble de la compagnie.
Pourtant, Fitzgibbon, hier, disait qu'il était drôlement content de voir Airbus aux commandes de la C-Series. Il disait que ça avait été une bonne chose. Écoute, je suis pas certain. Là.
C'était pas sa meilleure clip.
Ouais, je sais pas si à sa décharge, si lui s'est mal exprimé puis voulait faire la nuance entre deux choses. Un, est-ce que l'État devait aider Bombardier? Tu peux répondre à oui. Deux, est-ce qu'on devait l'aider comme on l'a fait? Ou ça aurait été plus efficace d'aider autrement? Peut-être que M. Fitzgibbon répondait oui à la première question et non à la seconde, mais qui a mêlé ses réponses.
Il y avait comme deux messages dans son point de presse, effectivement, puis il va falloir qu'il apprenne à rentrer dans un point de presse avec un message, pas deux. Je veux juste...
On m'indique, Bernard, la rencontre convoquée par M. Fitzgibbon lundi avec les acteurs de l'industrie, Bombardier y sera, vient-on de me glisser à l'oreille.
Très bien. À la rencontre, j'espère, donc présidée par le ministre de l'Économie. Ben c'est bon parce que il faut que ces employés-là qui vont perdre leur emploi puissent se trouver un autre emploi ailleurs. Alors, s'il pouvait y avoir une espèce de passage du ballon, là, tu sais, Bombardier dit, ben regardez, voici ceux qui risquent de perdre leur emploi. Voici le profil, le type d'ingénieur. Puis tu as d'autres entreprises autour de la table qui disent, ah oui, ça, c'est le genre de gars ou de fille dont j'aurais besoin. On peut-tu le parler, etc., etc. Ça pourrait limiter les coûts humains, mettons, de cette décision-là d'aujourd'hui. Parlant de coûts humains, c'est pas Paul qui l'a amené, ce sujet-là. C'est moi qui l'amène, les auditeurs. Il y a eu une rencontre ce matin des employés de La Presse, OK, le journal La Presse. Et... veux pas, Paul, moi je suis un ancien journaliste et l'avenir des médias, ça me tient à cœur parce que je pense que dans une démocratie, il faut être informé. Et de voir les journaux fermés les uns après les autres et de les voir menacés de plus en plus de fermeture, ça m'inquiète dans une démocratie comme la nôtre. Et donc, le sort de La Presse, oui, ça m'inquiète.
Merci.
Alors, tu es en total conflit d'intérêts, mais je veux quand même que tu nous dises c'est quoi les nouvelles.
Ben moi, les nouvelles, je pense qu'elles ont été communiquées de façon publique. Il y a un programme de départ à la retraite qui est offert, anticipé. Et je crois qu'il y a 37 postes qui y seraient offerts.
Ça, c'est 37 personnes.
Donc, ça va se traduire, si 37 personnes qui quittent, donc 37 abolitions de postes.
Ça, c'est
ça, évidemment, c'est dans le but de réduire les dépenses.
Tu es des journalistes, c'est quoi?
Ouais. En partie. Mais là, ça reste à voir, parce que quand vous ouvrez un tel programme, ben vous savez pas qui va s'en prévaloir. Donc, évidemment, j'y vais selon ma compréhension. Juste préciser que je suis un syndiqué, mais je veux laisser mon syndicat réagir officiellement à l'annonce de la direction. Puis c'est à la direction quand même que revient la responsabilité d'expliquer ce qu'ils viennent de présenter. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'enrage, mais même me déprime, c'est quand je vois que dans les médias au Québec, on tombe dans des espèces de guerres intestines, alors qu'on devrait vraiment être solidaires puis réaliser que les médias au Québec, puis au Canada aussi, on a un ennemi commun, deux ennemis communs en gros, qui s'appellent Google et Facebook, des géants de Silicon Valley qui ne sont pas réputés pour payer beaucoup d'impôts. Ils envahissent le marché publicitaire au Canada, ils siphonnent les revenus. Ils saignent les revenus publicitaires des médias, particulièrement des journaux. Donc, la crise des médias aujourd'hui, qui fait mal à la presse et qui fait mal à d'autres journaux, c'est une crise de revenus publicitaires. C'est pas une crise d'électorat. On a autant de gens qu'avant, peut-être même plus que jamais, qui nous lisent. C'est juste qu'on n'a pas de revenus qui viennent avec ce lectorat parce que tous les revenus en pub s'en vont à Silicon Valley. Donc, on a un ennemi commun qui est à Silicon Valley.
C'est pour ça que ça prend une intervention de l'État. C'est à ça qui sert l'État, là. C'est à ça qui sert l'État, là. Je l'ai dit à matin, là, au microphone de Paul Arcand, je le répète à matin. Le gouvernement Trudeau a pas mis ses culottes dans le dossier de Netflix. J'espère qu'ils vont mettre le culotte dans le dossier de Facebook et de Google. Parce que tu l'as bien résumé. Les revenus s'en vont chez Facebook et Google, puis les dépenses restent dans les journaux puis dans les salles de rédaction pour payer des journalistes.
Exact.
Et l'État lui-même, et ça à tous les niveaux, là, tous les niveaux de gouvernement. Eux autres non plus n'achètent plus des publicités dans les journaux. C'est vrai pour les quotidiens, puis c'est vrai pour les hebdos aussi.
C'est un bon point. En effet, l'État participe au problème, parfois, en achetant des publicités via Google et Facebook.
Oui, mais tu sais, moi, ils ont créé le Fonds des câbleaux pour... Hein, le Fonds des câbleaux distributeurs qui s'appelle maintenant le Fonds des médias, là, le Fonds, le FMC, Fonds des médias du Canada. C'est un fonds qui a été créé, dans le fond, pour financer du contenu. Du contenu, de financer des émissions de télé, des documentaires et tout le reste. Mais je me demande s'il ne faudra pas en arriver avec un espèce de fonds comme celui-là pour aider la presse écrite. On l'a fait pour la télé. On l'a fait pour les émissions de télé. Alors, est-ce que... Bon, c'est ça. Alors, mais il va falloir que Trudeau nous dise ce qu'il va faire à un moment donné. Le dossier est sur son bureau, là. Le dossier est sur le bureau de Pablo Rodriguez, son ministre. Puis, il y a une mise à jour financière dans deux semaines.
Puis, en terminant, je tiens à dire que tous les médias, entre autres chez nous, ont fait des efforts pour diminuer nos dépenses. C'est pas vrai qu'on fait comme s'il n'y avait pas de problème puis on continue à avoir les mêmes dépenses, les mêmes salaires. On réduit constamment nos dépenses.
OK. Après la pause, Carl, tu vas nous parler de Tony Clement. Celui qui s'est fait prendre les culottes à terre, là.
C'est le cas de le dire.
Dans un instant. De retour, donc, avec nos deux compères, Carl et puis Paul. Carl, parle-nous de Tony.
Tony, qui, on le rappelle, avait envoyé des photos à une inconnue qu'il croyait consentante et qui semble être plutôt quelqu'un qui voulait le faire chanter.
Photo et vidéo, Carl, n'est-ce pas?
Photo et vidéo, oui, vidéo. Hein? Faut pas oublier la vidéo.
Hein? Il était en action,
Je sais pas quel genre d'action il y avait. J'espère jamais le savoir. mais le reste qui a envoyé ces photos-là, la GRC enquête apparemment là-dessus. Au départ, il devait rester dans le caucus, mais chef conservateur Andrew Scheer, il a fait chirer Tony Clement hier, puis il a sorti du caucus. On peut écouter le chef conservateur.
Alors, j'ai seulement l'information qui était publique maintenant sur les réseaux sociaux. Ce sont des allégations sérieuses qui démontrent que ce n'est pas un incident isolé comme j'ai cru ce matin.
OK. Ben ça, c'est bien. C'est bien qu'ils réagissent comme ça.
Oui, ben c'est bien. Mais écoute, on en parlait hier là, que les allégations commençaient à sortir sur les médias sociaux.
Ça s'est-tu précisé, ça, qu'il y avait peut-être...
C'est pas clair. Il y a des allégations, comportements douteux. On accoste via les médias sociaux des jeunes femmes aux petites heures de la nuit. On s'essaye, tu sais, ce que les jeunes femmes disent, là, c'est qu'ils s'essayaient avec nous. Mais bon, on n'a pas des détails en profondeur là-dessus. Clairement, Andrew Scheer croyait que c'était suffisant. L'autre chose qui se pose, est-ce que c'était cette question-là soulève un enjeu de sécurité publique et de sécurité nationale? Faut dire que Tony Clement, non seulement était un ministre, mais il siégeait également au comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Ça, c'est le comité qui est en charge de surveiller le SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité. Donc, ça soulève des questions. Les libéraux n'ont pas l'air de trop s'en faire. On a posé la question à Andrew Leslie, là, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée canadienne et qui siège au gouvernement libéral. Donc, on peut l'écouter.
Non, parce que non, je pense pas. Dès qu'il a aperçu que c'était un blackmail, pardon l'anglicisme, il a fait son rapport au GRC. Alors, c'est à eux de déterminer les prochaines étapes.
Oui. Enfin, qu'un député libéral me dise ça, ça me rassure à moitié, là.
À moitié.
Ça me rassure à moitié.
Renvoie ça, il renvoie la balle à la GRC, comme tu as pu entendre.
Bon.
Donc, il y aura sûrement enquête. Puis là, l'autre question qui se pose, c'est ça fait combien de temps qu'il fait ça? Parce qu'il était ministre, lui, au provincial, au fédéral.
Qui fait quoi, tu veux dire? Qu'il envoie des petites images?
Ben, qui envoie des images, qui accoste des jeunes femmes sur les médias sociaux. Je veux dire, c'est habituellement, là, on commence pas ça à 57 ans. On se réveille pas un matin à 57 ans, on dit « Ah, ben, je vais envoyer des photos de moi à des inconnus. »
Et donc, continue.
Et donc, faudrait voir...
Il y en a peut-être qui. Il y a peut-être eu des informations qui circulaient à son propos il y a déjà un certain temps, mettons. C'est ce que tu poses comme question.
Ben, écoute, il y a certains médias qui ont soulevé la question. C'est plutôt nébuleux. Évidemment, c'était tout ça s'est déroulé avant le mouvement MeToo. Mais maintenant, on est dans un autre ère et les comportements doivent changer, la culture doit changer, mais on doit aussi mettre la lumière sur ce qui s'est passé dans le passé. Et dans le cas de Tony Clement, il faudra voir, là, et l'enquête le démontrera probablement, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu des comportements plus que douteux.
Auparavant,
on ne le sait pas.
Et qui le savait? S'il y en a et eu, voilà. Qui est au courant? OK. Voilà. Parle-nous du cas problématique d'un autre député de la Chambre des communes. De cette fois-ci, c'est un libéral. On ne parle pas du tout, on n'est pas du tout dans le même registre, précisons-le. Mais Nicolas Diorio, c'est bizarre cette affaire-là. Il y a quelque chose qui nous échappe, là, hein?
Écoute, il a annoncé au printemps passé qu'il allait démissionner. Il semblait qu'il allait le faire cet été. Il a changé d'idée pendant l'été. Il pensait rester, puis même peut-être se représenter, sauf que personne n'était au courant. Entre-temps, il est devenu partenaire chez BCF, là, la firme d'avocats. Là, depuis le début de le retour du Parlement, il se présente pas. On va l'interroger. Qu'est-ce qui se passe avec vous, M. Diorio? Ben, il dit, je suis en mission pour le premier ministre sur la sécurité routière. Donc, je fais mes travaux. J'ai pas besoin d'être au Parlement pour faire ça. Là, c'est une drôle de situation. Les conservateurs ont interrogé Justin Trudeau là-dessus cette semaine. On peut écouter ce que ça a donné. Là, c'est
le Alain premier ministre lui aurait donné un mandat secret. Alors, la question au premier ministre, c'est quel est ce mandat secret qu'il a donné?
Il faudrait parler à M. Diorio de ça.
OK. Il n'y en a probablement pas de mandat secret, là, on s'entend.
Ben,
là?
Oui, mais alors pourquoi le Parti libéral ne le dit pas? D'ailleurs, pourquoi est-il encore député libéral?
Ouais, mais ils peuvent pas. En fait, ils pourraient le mettre à la porte du caucus.
Ils peuvent pas
l'empêcher de rester au Parlement s'il veut rester au Parlement.
Non, mais sauf que si tu te présentes pas pour un certain nombre de jours, tu peux avoir des ponctions sur ton salaire et sur les choses auxquelles tu as droit. Okay. D'une part.
Mais ça dépend d'autre part. Ça dépend de la présidence de la Chambre, ça dépend.
Ben, faut qu'il y ait une plainte, puis il faut qu'il y ait une enquête, puis il y a tout un processus, là. Et je pense que ça prend 30 jours avant de pouvoir faire ça. Mais ça, c'est une chose. Mais d'autre part. Là, il dit, les libéraux ont annoncé qu'il allait donner son salaire.
Oui.
À des organisations de bienfaisance.
C'est-à-dire, le député Diorio a dit qu'il allait donner son salaire.
Oui. Et les libéraux l'ont confirmé. Mark Holland, le whip, a dit, c'est ce qu'on s'est fait dire. Donc, mais on s'en fout. Je veux dire, on paye pas nos taxes, nos impôts pour que lui puisse donner ça à une organisation de bienfaisance. On le paye pour qu'il fasse sa job.
Puis l'autre affaire, c'est qu'il a dit qu'il allait rester jusqu'au 22 janvier. Bizarrement, ça tombe bien parce qu'à partir du 22 janvier, s'il y a une démission, Justin Trudeau n'est pas obligé de déclencher une partielle.
Mais ça fait 9 mois, c'est à moins de 9 mois des élections, en théorie. Puis là, le projet de loi C-76 qui est présentement au Sénat, ça va confirmer que tu ne pourras plus en déclencher de partielle à partir de ce moment-là. Alors, autrement dit, les citoyens de Saint-Léonard-Saint-Michel, là, ils n'auront pas eu de députés depuis le mois de juin. Ils n'en auront pas avant le mois d'octobre.
Oui.
Ça n'a pas de bon sens.
On s'entend.
Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il sait, lui, sur le Parti libéral, pour que le Parti libéral le traite si gentiment?
Ah, ça, c'est une sacrée bonne question. Mais pourquoi Justin Trudeau, c'est lui le chef du Parti libéral aux dernières nouvelles?
Je pense que oui.
Pourquoi est-ce qu'il ne le met pas dehors? Pourquoi est-ce qu'il ne met pas dehors du caucus?
Mais oui.
Mais il y a une mission pas long à faire, évidemment.
C'est facile à faire. Au Parti libéral, d'après moi, ça
devrait être un bruit de claquement de
doigts. Décision du chef.
Décision du chef. Il a mis tous les sénateurs dehors d'un coup il y a quelques années.
C'est une bonne question que tu poses là, mon Carl. On n'a vraiment aucune idée d'un début de réponse.
J'en ai plein comme ça.
OK, mais si jamais tu as un début de réponse à cette question-là, tu la partageras avec nous. Carl Bélanger, consultant, stratège, merci.
À demain.
Bonne journée, éditorialiste à la presse.
Merci.
On lâche pas?
Non.
Hein?
J'ai essayé de claquer les doigts tantôt en ondes, Bernard, ça n'a pas fonctionné.
Hein? Pas pire,
j'ai
hein?
pas ton expérience.
Ouais, à demain.